Alors, je vous invite à trouver dans les Bibles blanches l'évangile de Matthieu. Et nous sommes au chapitre 6 ce matin. On va reprendre notre série dans l'Ecclésiaste la semaine prochaine. Mais pour l'instant, on va méditer un passage dans Matthieu 6. On va lire à partir du verset 25. Et avant de lire le passage, je vais prier. Notre bon Père Céleste, en effet, on a besoin de ta présence. Tu vois à quel point la vie peut être difficile. Nous avons besoin de ta présence, ton esprit. Nous avons besoin ce matin de tes paroles. Nous avons besoin d'entendre ta voix. Et notre bon Père Céleste, nous voulons te demander de parler ce matin. Parle à nous, par cette parole, par cette prédication. Nous sommes à ton écoute et nous voulons te demander de nous instruire, de nous aider à mieux te connaître. Corrige-nous aussi, là oui, il faut que nous soyons corrigés pour que nous puissions t'aimer davantage, te servir plus fidèlement. Et nous te demandons ces choses au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Donc Matthieu chapitre 6, et on va lire à partir du verset 25, c'est à la page 621. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous ? » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et on va arrêter notre lecture ici. Alors, les soucis, il y en a dans la vie, n'est-ce pas? Je pense qu'on en a tous. Il suffit de lire nos journaux pour voir les inquiétudes de notre société. Est-ce qu'il va y avoir une guerre entre les États-Unis et la Corée du Nord? Ou qui sera élu ce soir à la présidence de la République? Est-ce que le chômage va enfin baisser dans les 5 ans à venir? Et en fait, nos inquiétudes peuvent être beaucoup plus personnelles aussi. Notre santé. Qu'est-ce que le médecin va dire? Ou c'est peut-être la santé d'un proche. On s'inquiète pour notre poids ou pour notre apparence. Faut-il acheter bio ou pas? Est-ce que ce qu'on mange va nous donner un cancer d'ici 10 ans, d'ici 20 ans? On se fait des soucis. Peut-être c'est votre situation financière qui vous préoccupe. Ah oui, les factures arrivent, les fins de mois ne sont pas forcément simples. Ou c'est peut-être plutôt l'avenir de vos enfants qui vous pose problème ou qui vous suscite des angoisses. Ou votre situation au travail. Ou votre mariage. ou le fait que vous êtes encore célibataire. Les soucis, les sources d'angoisse, les questions qui peuvent nous donner des nuits blanches, il y en a dans la vie. Et Jésus, dans ce passage, veut nous parler de nos soucis, de nos inquiétudes. On voit, le mot « inquiéter » vient tout le temps dans ce passage. Alors pourquoi est-ce que Jésus veut nous en parler? Nous sommes ici dans ce passage, dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Un sermon qui est très bien structuré autour du Notre Père, la prière que Jésus nous a apprise. Et ce message, ce sermon, nous montre ce que ça veut dire de vivre dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire de suivre le roi, Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire d'être chrétien? Et dans cette section précise, Jésus nous montre ce qui peut nuire à notre relation avec notre bon Père céleste. En effet, le cœur de la vie chrétienne, le cœur de la vie dans ce royaume de Dieu, c'est notre relation avec Dieu, avec notre bon Père céleste. Une relation qui a été rendue possible par le roi lui-même, par Jésus, par sa mort sur la croix. Ce qui est à couper le souffle dans la foi chrétienne, c'est que le Dieu de tout l'univers devient notre Père. Mais la connaissance de Dieu comme un bon Père céleste est souvent mise à mal par notre vie ici-bas, par notre relation avec le monde, et notamment par nos soucis, nos inquiétudes, nos angoisses. Et Jésus est venu faire revenir à ce qu'il a enseigné dans le Notre Père. Le Notre Père qu'on a chanté ce matin et qu'on a étudié il y a quelques semaines, juste avant la semaine d'évangélisation, avec l'Institut biblique belge. Alors ce matin, Jésus nous montre qu'il est un bon médecin qui a observé le patient, qui a diagnostiqué le problème et qui peut nous donner le médicament qu'il nous faut. Jésus va nous montrer quoi faire pour faire face aux soucis de la vie. On va voir dans un premier temps que Jésus nous exhorte à débusquer les mensonges que nous avons crus. Débusquer les mensonges que nous avons crus. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va voir comment Jésus nous exhorte face aux soucis de la vie, à nous remettre à notre bon Père céleste. Et finalement, on va aussi entendre son exhortation à vivre pour l'essentiel. Donc pour ceux qui prennent des notes, trois titres, débusquons nos mensonges, remettons-nous au Père et vivons pour l'essentiel. Et on va commencer en parlant de ces mensonges que Jésus débusque. Parce que les mensonges sont un vrai problème pour nous tous. Ces mensonges suscitent nos angoisses. Et nos inquiétudes révèlent les mensonges que nous avons crus. Nos inquiétudes, nos angoisses, même les meilleures, même les plus nobles d'entre elles, même celles qui semblent très légitimes, révèlent une maladie spirituelle qui touche nos cœurs. Est-ce que vous voyez comment, tout au long de ce passage, Jésus est en train de corriger la perspective de ses auditeurs? Il le fait en posant des questions. Il le fait pour les ramener à une saine perspective de la vie, la vraie vie, avec le vrai Père. On le voit par exemple au verset 25. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. » Question, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? En fait, Jésus corrige une perspective sur la vie qui serait fausse. Il dit en gros, vous vous êtes trompé. La vie est beaucoup plus que la nourriture et les vêtements. Si ces choses-là sont devenues vos maîtres jusqu'au point de vous donner des nuits blanches, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce qui corrige au final? Les versets 31 et 32 nous le montrent de manière claire. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-nous ? » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. En fait, ces inquiétudes, selon Jésus, révèlent une foi non chrétienne, indigne du chrétien, païenne. C'est ce que les gens d'autres peuples croient. Et le diagnostic de Jésus est bien radical. On va voir tout au long de ce passage que oui, Dieu prend soin de nous. Il connaît nos angoisses, il connaît nos faiblesses, et en même temps, il patiente, il nous aime. Mais il ne veut pas que nous restions dans nos angoisses. De manière large, on sait que le croyant est uni à Jésus. Il est en Jésus, il a été pardonné, il est collé à Jésus, il a reçu la justice, la vie parfaite de Jésus. Et du coup, Dieu peut le déclarer juste, de manière juste. Dieu peut nous accepter tels que nous sommes en Jésus. Mais c'est aussi pour nous transformer en son image. Son amour ne veut pas que nous pensions comme des non-croyants. On vit dans une société qui n'est pas chrétienne, qui ne réfléchit pas de manière, qui ne pense pas de manière chrétienne. Elle est imprégnée de l'athéisme. L'athéisme n'est pas anti-religieux, il n'est même pas laïque, même s'il prétend l'être. Non, il est profondément religieux, parce que c'est aussi une manière de voir l'univers, c'est une perspective sur la réalité, basée sur la foi. L'athéisme est une foi religieuse, comme les autres. Et le premier article de cette foi, c'est la non-existence de notre Créateur. L'univers n'aurait pas de Créateur. Et la matière dont l'univers est composée serait tout ce qui existe. Le deuxième article de foi de l'athéisme nous explique que si nous sommes là, c'est parce qu'un long processus aléatoire, sans but, a donné lieu à l'homme. Son existence à lui est aussi passagère parce qu'il va évoluer pour devenir autre chose. En plus, personne ne serait au-dessus de ce processus, personne ne serait en train de le guider. Personne ne serait au-dessus de l'homme en ce moment. Oui, tout ce qui nous arrive fait partie de ce processus. Il y a des causes, mais pas de causes avec signification. Et cette manière-là, cette manière de voir l'univers, cette foi, façonne la perspective de notre société non chrétienne, païenne. Et qu'on le veuille ou non, elle façonne notre manière de voir les choses. Parce qu'on n'est pas si imperméable à cette manière de penser. Si on croit qu'il n'y a que la matière, c'est tout ce qui existe dans l'univers, on commence à vivre pour cette matière-là. Du coup, on commence à accumuler des choses. On commence à nous dire, bah, la valeur de l'homme se mesure à la quantité, à la beauté de ses biens. Ses biens à la fois matériaux et immatériaux. La réussite de sa vie dépendrait de sa carrière, de sa position dans la société, de sa réputation, du nombre de ses diplômes, de la réussite de ses enfants. On voit en ce moment quantité de bouquins qui évoquent des listes de choses à faire avant de mourir. Mais si on croit qu'il n'y a que cette matière, il n'y a que cette vie, bah, c'est clair, on commence à vivre pour cette vie seulement, cette vie matérielle. Mais ça suscite bien des inquiétudes. Est-ce qu'on a assez de biens? Qu'est-ce que les autres pensent de nous? Est-ce qu'on a cette réputation? Combien de personnes me suivent sur Twitter? Combien d'amis aiment mes billets sur Facebook? Que pensent les autres de mes vêtements, de ma maison, de ma voiture? Est-ce que je donne assez de cours particuliers à mes enfants pour qu'ils réussissent? Mais Jésus nous dit que cette manière de penser est un mensonge. Et Jésus nous dit que la vie est beaucoup plus que de la matière. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? En plus, il n'y a personne au-dessous de nous. Si cet univers n'a pas de chef, ben c'est finalement à nous de nous protéger des aléas de la vie. C'est à nous, personnellement, parfois on se remet à l'état, c'est à nous de pourvoir tous nos besoins. Personne d'autre va s'occuper de nous. C'est à nous de nous assurer notre sécurité financière. Ou c'est aux parents de tout faire pour assurer l'avenir des enfants. Et cette façon de penser, cette foi athée, suscite bien des inquiétudes. Les jeunes doivent penser tout de suite à la retraite, aux cotisations. On se dit, ouais, peut-être j'ai pas assez acheté, il faut acheter peut-être plus d'assurance, de prévoyance. On se dit, voilà, je vais prendre un emploi dans la fonction publique, même si elle est moins bien, il est moins bien payé, mais il faut absolument avoir cette sécurité, un emploi à vie. La vie sans créateur suscite bien des angoisses. Mais Jésus nous dit que c'est un mensonge. Car le monde dans lequel nous vivons a bien un chef, un créateur. Il a un bon Père qui est aux cieux. Et ce Père règne. Et c'est partout dans notre passage. Il y a un bon Père céleste qui nous voit. Il n'est pas absent, il gouverne, il est souverain. Et Jésus débusque ces mensonges pour les remplacer avec la vérité. Jésus ajoute de manière tranchante au verset 27, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ?» On ne maîtrise pas nos avenirs. On ne peut même pas ajouter une heure à notre vie. Ces inquiétudes révèlent le fait que quelque part, inconsciemment, on croit être des maîtres de l'univers. Et en même temps, on sait inconsciemment que nous sommes des piètres maîtres de l'univers. Parce qu'on ne connaît pas l'avenir, on ne maîtrise pas l'avenir. Notre connaissance est bien limitée. Et on commence à nous inquiéter. Les inquiétudes, les angoisses révèlent en quelque sorte une foi athée, ou du moins une foi qui n'a plus Dieu comme Père souverain au centre. Au verset 30, Jésus le résume bien en disant « gens de peu de foi ». C'est parce que c'est l'incrédulité qui serait à la base de nos inquiétudes, même les meilleures d'entre elles, même les inquiétudes les plus légitimes en quelque sorte. Je ne sais pas ce qui vous inquiète en ce moment. Vous avez peut-être des soucis financiers, des soucis au travail. Vous avez peut-être de gros soucis de santé. Vous vous inquiétez pour un membre de la famille, peut-être. Et je sais, c'est dur de ne pas s'inquiéter. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe si le pire arrive? Comment y faire face? Jésus veut qu'on réalise que ces angoisses, qui naissent parfois des situations très difficiles, trouvent quand même leur racine en un mensonge et au mieux un oubli de la vraie réalité. Jésus veut que nous voyions ces mensonges et que nous les débusquions. Non, on ne vit pas dans un monde où Dieu n'existe pas. On ne vit pas dans un monde qui serait contrôlé par plusieurs divinités qui se contredisent, par exemple, ou qui doivent être apaisées. Non, il y a un seul Dieu. Il est là. Il ne s'est pas absenté pour une période indéfinie. On a besoin de voir la vraie réalité. Nous avons un bon Père céleste. Il règne. Il nous aime. Donc, partout dans ce passage, Jésus veut nous ramener à ce que nous voyons dans sa prière, dans le Notre Père. Au cœur de la foi chrétienne, au cœur de cette vie dans le royaume, il y a notre vie avec son Père. Notre univers n'est pas sujet aux forces aléatoires sans but. L'homme n'est pas seul. Non, il y a un Dieu. Un Dieu quand Jésus, on peut appeler notre Père. Ce Père règne, sa volonté sera faite. Ce Père nous connaît, il connaît notre avenir, il connaît nos besoins et il prend soin de nous. La connaissance de Dieu est éminemment pratique. Parfois on se dit que toute prédication du dimanche matin doit avoir une application concrète, quelque chose à faire lundi matin. Et bien sûr, c'est parfois intéressant d'avoir de telles applications, mais la plus grande application, c'est la connaissance de Dieu, connaître Dieu tel qu'il est vraiment. Cette connaissance-là est transformatrice. Nous avons besoin de connaître Dieu et dans ce passage, nous voyons que si on le connaît bien, nous n'avons pas de raison de céder à l'angoisse. Certes, ce passage ne dit pas que Dieu va nous donner une vie sans problème. Il ne dit pas que nous n'allons jamais avoir d'épreuves, que nous n'allons jamais connaître la mort non plus. On va sans doute tous passer à moment ou un autre, par des épreuves qui, humainement parlant, sans la connaissance de Dieu, vont susciter bien des angoisses, bien des nuits blanches. Mais ce que Jésus dit doit façonner notre perspective pour que dans l'épreuve, nous puissions faire confiance à notre bon Père Céleste. C'est cette confiance que Jésus veut mettre au cœur de notre relation avec Dieu. Il nous appelle à la repentance concernant ce manque de foi, cette incrédulité. Il nous appelle aussi à la foi, une foi qui fait confiance, une foi qui connaît Dieu comme ce bon Père souverain, aimant, fiable, une foi qui met sa confiance en lui. Il est un Père pour qui nous avons de la valeur. C'est ce qu'on voit au verset 26. Jésus nous l'explique avec cette illustration tirée de la nature. Il parle des oiseaux. Ces oiseaux ne sèment pas, ne récoltent pas, ne stockent pas. Et pourtant, Dieu prend soin d'eux. Combien plus alors, si Dieu prend soin des oiseaux, prendra-t-il soin de nous qui avons beaucoup plus de valeur à ses yeux. Et donc Jésus nous invite à ouvrir l'œil, à voir ce que Dieu est en train de faire dans son monde. Oui, c'est Dieu qui leur donne à manger. Il est un Dieu qui contrôle les aliments. C'est lui qui fait pousser l'herbe. C'est lui qui donne à manger à ses oiseaux, aux animaux. Alors Jésus ne dit pas qu'il faut cesser de semer, cesser de récolter comme si nous étions des oiseaux. Non, c'est normal de travailler, de planifier, de prévoir, d'épargner. Mais il nous exhorte à faire confiance à notre bon Père Céleste, à ne pas nous angoisser pour ces choses comme si Dieu n'existait pas, comme si tout dépendait de nous. Si notre Père peut s'occuper de ces oiseaux, de leur avenir. Combien plus il peut s'occuper de nous et de nos besoins quotidiens, de notre pain quotidien. Il peut s'occuper des besoins de nos enfants, après nous aussi. Est-ce que nous croyons ça? Ou est-ce que secrètement, inconsciemment peut-être, est-ce que nous croyons que nous sommes un peu seuls dans l'univers, que tout dépend de nous? Est-ce que nous croyons que Dieu prend soin de nous? Ou est-ce que nous croyons que Dieu est quelque part absent, oublieux, ou que nous avons finalement peu de valeur à ses yeux? Alors c'est sûr, même les oiseaux meurent. Je ne sais pas si vous en avez vu, par exemple, sur le trottoir, au bord de la route. Jésus ne dit pas que grâce à Dieu, leurs vies vont être immortelles. Et c'est vrai pour nous aussi, les nôtres non plus. Quelqu'un a dit une fois que nos vies sont immortelles jusqu'à ce que notre travail pour Dieu soit terminé. Et jusqu'à ce moment, Dieu pourvoira à tous nos besoins quotidiens sur la terre. Et ensuite, il nous prendra pour être avec lui, qui est de loin meilleur. Et donc, ce n'est pas la peine de nous angoisser. On ne peut même pas ajouter une heure à notre vie par nos propres efforts, par nos angoisses, par nos inquiétudes. Du coup, la confiance en Dieu notre Père est beaucoup plus logique. Jésus enchaîne avec une autre illustration où il parle des plus belles fleurs de la terre, littéralement des lys. Il nous invite à observer cette création du Créateur. Dieu est capable de donner des vêtements de toute beauté à ces fleurs qui poussent et qui meurent aussitôt. Pourtant, Dieu prend soin d'eux. Il leur donne une gloire qui dépasse celle du roi Salomon, le roi le plus riche de l'histoire d'Israël. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? On a besoin de connaître ce Dieu-là. L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Rome qu'ils ont besoin d'une intelligence renouvelée. Notre besoin pour mieux vivre ici-bas, à la gloire de Dieu, c'est de connaître Dieu. On a besoin d'une juste connaissance de qui il est. Et ce matin, dans ce passage, Jésus nous exhorte à fixer nos yeux sur notre bon Père céleste, à le connaître tel qu'il est. Il est bon. On a de la valeur à ses yeux. Il nous aime. Il prend soin de nous. Il en est bien capable parce qu'il est le Père. Il règne. C'est lui le souverain. Nous avons affaire à un Père aimant qui gouverne l'univers. Jésus ne nous invite pas à nous voiler les yeux et à croire que la vie du croyant sera toujours facile, qu'on va avoir des frigos pleins à craquer, des meilleurs produits de chez Monoprix ou quelque chose du genre, où il va nous donner à coup sûr la plus grande maison pour qu'on puisse accueillir, servir nos frères et sœurs. Non. Mais Jésus promet que notre bon Père Céleste connaît nos besoins. Il parle là de nos besoins essentiels, jusqu'à ce qu'il nous rappelle pour être avec lui. Il nous donnera ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas à nous y inquiéter. Dans les passages suivants, Jésus nous dira que Dieu notre Père entend nos prières. Il se plaît à être généreux. Il ne nous donnera pas forcément le luxe. Ce qu'il nous donnera ne sera pas forcément plus que ce qu'il donne aux autres, mais il prendra soin de nous. Est-ce que nous croyons ça? C'est vrai, il y a des types de personnalités qui sont plus ou moins angoissées. Vous êtes peut-être du genre à ne pas vous faire trop de soucis. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous avez un bon travail. Vous réussissez vos examens au lycée. Vous n'avez pas de soucis particuliers. Alors si vous n'êtes pas du genre à vous faire trop de soucis, vous devez également apprendre à avoir cette même perspective saine, à reconnaître que jour après jour, ce que vous avez vient de la main de votre bon Père Céleste. Vous dépendez de lui. Jésus ne nous invite pas à l'insouciance, mais à une réelle dépendance de notre Père. Voici une promesse que l'apôtre Paul nous donne dans sa lettre aux Philippiens. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. De la même manière, Jésus ici nous exhorte, face aux multiples sources d'angoisse dans la vie, à nous remettre au Père souverain. Il nous aime. Il nous donne notre pain quotidien. Et ensuite, il va plus loin. Au verset 33, oui, on remet nos inquiétudes au Père, ce Père qui nous aime, qui nous a sauvés par Jésus. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Le but de Jésus n'est pas de juste nous donner une vie zen. Il nous exhorte à poursuivre premièrement, d'abord, le royaume et la justice de Dieu. Jésus nous exhorte à non seulement changer de perspective quant à nos inquiétudes et à faire confiance à notre bon Père Céleste, mais il nous exhorte à adopter une nouvelle perspective radical, où on a un souci, on a pour souci principal le royaume de Dieu. C'est-à-dire que le nom de Jésus soit honoré, que le règne de Jésus vienne. Jésus nous dit que si nous avons pour souci principal son royaume, ce qui plaît à Dieu, bah Dieu s'occupera du reste. C'est une question d'avoir la bonne cible, à savoir sa volonté. Si on a ça pour cible dans la vie, on ne sera pas en train d'avoir pour cible d'autres soucis. On ne sera pas obnubilé par nos inquiétudes terrestres. Mais on aura un cœur qui se donne entièrement à suivre le Seigneur Jésus, le roi du royaume, le roi que le Père nous a donné. Si notre souci principal, par exemple, est d'aimer nos collègues au travail, de les servir, de leur parler de Jésus, on aura moins de temps pour nous inquiéter au sujet de cette promotion, de ce que les autres pensent de nous au travail. Et de toute façon, tout ça n'est pas l'essentiel. Si notre souci pour nos enfants, c'est de les voir venir à Jésus, d'avoir la vie en Jésus, de les voir servir le royaume. Du coup, les examens à l'école, la réussite scolaire, la réussite professionnelle, tout ça semblera beaucoup moins important. On va simplement les confier à Dieu notre Père, à lui qui peut réellement prendre soin d'eux. On les encouragera à prioriser le royaume, le service, l'église, le témoignage. Si notre souci, c'est d'honorer le Seigneur par notre célibat, si on est célibataire, peut-être dans le contentement, peut-être en cherchant à le servir avec notre temps. Le fait de ne pas être marié, pas encore marié peut-être, semblera beaucoup moins préoccupant. Le Seigneur connaît nos inquiétudes. Il a compassion de nous, il patiente. Mais il nous invite à chercher d'abord son royaume et à vivre pour lui, à vivre pour l'essentiel. Et ensuite, Dieu s'occupera de nos besoins essentiels. Encore une fois, Jésus ne promet pas une vie facile où tous nos problèmes seront résolus. Parfois, c'est vraiment poursuivant la justice de Dieu, le royaume de Dieu, dans la prière, que vraiment ces problèmes que nous avons tous commencent à pâlir, on commence à avoir cette juste perspective. Dans un autre passage dans Romains, Paul parle de notre Dieu souverain, de sa bonté, de son engagement dans l'Évangile à accomplir notre salut. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Nous avons donc un bon Père céleste. Venons à lui, déchargeons nos soucis sur lui. Faisons-lui confiance. Et positivement, cherchons à avoir pour souci principal son royaume, le royaume qu'il a confié à son Fils Jésus. Ayons à cœur sa gloire, son honneur, dans la vie quotidienne, à l'église, demain au travail, au lycée, à la maison, dans le voisinage. Et Dieu s'occupera de nos inquiétudes, de nos problèmes de tous les jours. Je vous invite à la prière. Notre bon Père Céleste, tu vois à quel point c'est difficile pour nous de ne pas s'inquiéter. On a nos yeux fixés sur nos problèmes, des problèmes bien réels, des problèmes qui peuvent nous faire peur. Donne-nous de voir, de débusquer les mensonges que nous avons crus. Tu es bien là, tu es souverain, tu maîtrises l'avenir. Tu sais ce que tu fais. Tu prends soin de nous. Tu l'as fait de manière suprême en Jésus. et tu nous donneras toutes choses avec lui. Notre bon Père Céleste, nous voulons te demander de nous aider à te faire confiance. Façonne notre pensée. Donne-nous de voir à quel point tu es bon. Pardonne-nous lorsque nous nous adonnons à ces mensonges. Et par ta vérité, chasse ces mensonges. Nous avons besoin de ton aide. Et nous te demandons ces choses au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.